Cap Cap, Jacques Lavergne,
Gilles Labouroire.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième volet de nos émissions sur l'histoire de l'olympisme. Nous avons abordé la naissance de l'olympisme, on est allé de 1848, hein, vous me corrigez Gilles,
1896 à 1936.
Voilà, et ensuite nous avons été à Londres jusqu'à la fin de la guerre froide, hein, on a fait
en grande partie la guerre froide, 1972 s'était arrêté.
Et là nous nous retrouvons pour la période contemporaine jusqu'à nos jours. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Jacques.
Alors Gilles, bien écoutez... Redémarrons. Nous sommes où là ? Nous nous retrouvons.
Nous sommes en 1976 à Montréal.
En 1976 à Montréal, une année particulière ?
Une année aussi importante quand même, parce que c'est le début des boycotts, ou on va dire du boycottage de certains pays. Alors précisément, en 1976, les pays africains, en grande partie, une grande partie des pays africains, boycottent ces Jeux Olympiques de Montréal. En raison de l'apartheid qui sévit en Afrique du Sud. Et pour ça, ils prennent un exemple, les relations rubistiques qu'avait la Nouvelle-Zélande avec l'Afrique du Sud. Donc, ils demandent l'exclusion, quelque part, de la Nouvelle-Zélande, mais le CIO est au pied du mur, finalement. Donc, c'est refusé. Et donc, ces pays africains, pas tous les pays africains. Par exemple, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont proches de la France et qui iront aux Jeux Olympiques de Montréal. Donc c'est important de dire ça d'abord parce que on avait vu déjà en 60, 68 que le monde africain émergeait, vous voyez, sur la scène sportive internationale et surtout olympique. Alors je retiendrai surtout de 1976 une jeune fille de 14 ans qui faisait 1m49, qui était roumaine, qui s'appelait Nadia Comăneci.
Que personne n'a oublié, au moins.
Personne n'a oublié, parce que quand on regarde ce qu'il reste des Jeux Olympiques, on se souvient de Berlin, de Jesse Owens, on se souvient des points levés des deux Américains en 68. Mais je pense incontestablement que 76, la grâce de Nadia Comăneci, qui est une gymnaste roumaine, et qui, pour la première fois, finalement, fait affoler les compteurs, puisqu'elle obtient une note de 10. D'ailleurs, c'est un fait important, parce que le tableau d'affichage de la note indique 1.0 au lieu de 10.0.
Et ça s'est reproduit depuis ?
Ça s'est reproduit. Enfin, ça s'est reproduit à des championnats du monde, mais pas des Jeux Olympiques. Et elle remporte ce jour-là, elle remporte en tout, en 76, 5 médailles, donc 3 en or. Et je l'ai retenue comme itinéraire parce que, bon, elle est quand même au cœur d'un enjeu géopolitique, ne serait-ce qu'entre la Roumanie et l'URSS, par exemple. La Roumanie qui n'avait pas soutenu l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68, par exemple. Et on sent que l'URSS et la Roumanie se livrent à une véritable guerre froide, et surtout sur les agrès de gymnastique. Il faut imaginer qu'en 76, je vais revenir un petit peu sur la vie de Nadia Comăneci, mais en 76, il y a deux personnes qui émergent sur la gymnastique mondiale, Nadia Comăneci, 14 ans, et 2-4 ans plus âgée, une Russe qui s'appelle Nelly Kim, qui, elle, est vraiment aussi une athlète à forte personnalité. Il faut imaginer que ces deux personnes ne se parlaient pas entre les athlètes russes et les athlètes roumaines.
C'était pourtant des pays qui étaient du même côté.
Oui, qui étaient du même côté, mais la Roumanie était très critique vis-à-vis de l'Union soviétique. Hein. À l'époque, sur la scène internationale, Ceausescu était quand même assez opposé. Ce n'est qu'en 1980... Nelly Kim et Nadia Comăneci, fin de carrière, se retrouvent sur un podium à Moscou et arrivent enfin à se parler. Elles ont mûri entre-temps. Mais l'histoire de Nadia Comăneci, je dis toujours que c'est très important parce que, quelque part, ça a un lien avec la gymnastique d'aujourd'hui. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi. D'abord, elle est entraînée par un lanceur de marteau Bella Caroli. On est dans des régions Onesti, dans vraiment le sud profond. On est loin de Bucarest.
Le lancer de marteau, c'est pas du tout sa discipline.
Ce n'est pas du tout sa discipline, mais il exigeait tellement des gymnastes qu'il les entraînait d'une manière très dure. Hein. Et ce qu'il faut dire à l'époque, c'est que ces jeunes adolescentes, elles étaient le symbole d'un régime finalement qui fallait émerger sur la scène internationale pour remporter des médailles. Et la gymnastique était vraiment la discipline par excellence. Donc Nadia Comăneci, quand elle gagne à Montréal, c'est 5 médailles, donc 3 en or. Après, elle revient au pays, elle reçoit la médaille du travail, elle est le symbole de ce socialisme-là. Elle, 8 ans après, elle s'en va du pays, elle quitte en 1980 la gymnastique. Et il faut imaginer qu'il y a une révolution en Roumanie qui a lieu en décembre 1989 et qui voit la chute du régime Ceausescu. Et donc, un mois avant, elle quitte quand même illégalement le pays. Elle avait entretenu, soi-disant, une relation avec le fils de Ceausescu, qui était un peu assez dissolu, au mode de vie assez dissolu. Et puis, elle s'enfuit, elle part aux États-Unis et elle retrouve quelqu'un qui avait été médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles et qui avait aussi été à Montréal en 1976, Bart Conner, c'est un Américain, elle a eu un fils avec lui en juin 2006. Et puis, elle ouvre, si vous voulez, des salles de gymnastique aux États-Unis. Elle n'a jamais trop rompu le lien avec sa Roumanie natale. Et c'est quand même une histoire qui m'intéresse parce que quand elle quitte en 1980 la gymnastique, Bella Caroli, son entraîneur, ainsi que Marta Caroli, sa femme, quitte aussi la Roumanie. Et on les retrouve, si vous voulez, à former la gymnastique américaine. Et la grande star de la gymnastique américaine, Simone Biles, qui sera sans doute l'une des grandes protagonistes de Paris 2024, a eu une petite sortie de route aux Jeux de Tokyo, puisqu'elle a eu quelques accidents. Et en effet, c'est lié aussi à ce qu'on a soupçonné à l'époque, c'est au lire le scandale des abus sexuels dans la Fédération américaine de gymnastique. Et on pense que Marta Caroli était au courant de tout ça, puisque c'était quand même la grande prêtresse de la gymnastique américaine. C'est pour ça que l'histoire est un éternel recommencement. Et voilà.
Et donc, il n'y a pas que chez nous qu'il y a ce genre de choses.
Non, ça a fait beaucoup de bruit. Ceci étant, Simone Biles, qui est actuellement la gymnaste la plus importante, elle a un style très particulier, elle est d'origine belizienne, elle a une grâce incontestable, elle rappelle quelque part Nadia Comăneci, elle sera l'une des grandes favorites de Paris 2024. Voilà, donc je voulais raconter un peu cette histoire de Nadia Comăneci. En 1976, émerge aussi un coureur, Juan Torrena, un Cubain qui gagne le 400 et le 800 mètres. Émerge aussi un boxeur cubain qui s'appelle Teofilo Stevenson. Et on sent là aussi la présence, j'allais dire, du leader Maximo, Fidel Castro, qui impose Cuba sur la scène internationale sportive.
Hein, tout ça est quand même très, très politique.
Oui, tout à fait.
On poursuit la guerre froide par d'autres moyens.
Tout à fait. Mais finalement, Stevenson aurait pu rencontrer un jour Mohamed Ali dans un combat professionnel. Des promoteurs américains lui avaient promis d'énormes sommes d'argent, mais il est resté, comme on dit, avec sa maison et Salada. Il est resté par idéal, par patriotisme, et puis aussi symbole de cette révolution cubaine qui apparaît en 59 et qui donc produit une jeunesse qui est quand même portée sur le sport. Cuba est un grand pays de sport à l'époque.
Et on n'a pas oublié. C'est fini aujourd'hui ?
Pardon ?
C'est fini aujourd'hui ?
Non, Cuba reste encore un grand pays de boxeurs, incontestablement. C'est le pays de la boxe. À Rio et à Tokyo, ils ont fait une radia sur la boxe. Ils sont moins bons à l'athlétisme, mais ils apparaissent aussi dans d'autres sports. Voilà. En 1976, on n'oubliera pas Guy Dru, champion olympique du 110 mètres haies. Il avait été médaille d'argent 4 ans avant à Munich 62-12. Il faut imaginer hein, ce fils de petit épicier natif de Oigny dans le Nord, la maison à côté de celle de Michel Jazy. Michel Jazy, lui et son père, qui est décédé, il était mineur, donc décédé de la silicose. Et donc, cette histoire du Nord, un petit peu guide-rue, quand même à force de travail, qui est devenu champion olympique, ce n'était pas évident, une progression extrêmement rapide. Et puis après, il a été un peu, je dis souvent, ministre des sports de Jacques Chirac. Et puis, il est aussi allé à la mairie de Paris. Il était le pendant à droite de Roger Bambuck, le sprinteur, qui, lui, était dans un gouvernement de gauche, ministre des sports. Voilà pour 1976.
Il y a quand même pas mal de sportifs qui finissent ministre des sports. Alors, pas mal, le oui. mot n'est pas bien choisi.
Oui, Laura Flessel.
Voilà, on en connaît un certain
oui,
nombre.
Oui, tout à fait. C'est un débouché. On peut imaginer que demain...
C'est un débouché étroit. Hein.
Oui, mais bon...
Pour demain, je préfère qu'on n'imagine pas.
Voilà. Donc là, comme vous dites, on doit faire quand même un quart de bon siècle à saut et gambade, et très rapidement, avant d'arriver à des conclusions. Donc il faut tout de suite passer à Moscou, 1980. C'est aussi un boycott des États-Unis, imposé par Jimmy Carter, suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, fin 1979. Et là, il y a 62 nations qui boycottent, dont évidemment les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, l'Allemagne, pas la France et pas l'Angleterre. Et je dis ça parce que l'Angleterre, Madame Thatcher, était vraiment pour le boycott. Mais je voulais vraiment faire émerger la personnalité de Sébastien Coe, qui est l'actuel président de l'athlétisme mondial actuellement. Donc, il a porté le projet de Londres 2012. C'était un fils de la... bonne bourgeoisie, il a été député conservateur, et donc il s'oppose parce que, si vous voulez, lui, il veut vraiment être champion olympique du 800 et du 1500 mètres, qui sont les deux épreuves en athlétisme les plus intéressantes. Sur 800 mètres, il est défait par un autre Britannique, alors lui d'extraction plus modeste, Steve Ovett, d'origine écossaise, plus taiseux, qui vote à gauche, qui vote Labour, alors que Coe vote Tories. Et Coe prendra sa revanche sur 1500 mètres, mais ça me fait penser que finalement, dans ces Jeux Olympiques, il faut un double pour mieux se sublimer. Et on a en tête quand même ce duel des années 1980. En 1984, Sébastien Coe deviendra aussi champion olympique du 1500 mètres. Voilà. Donc, nous étions donc sur Moscou.
En Moscou, ça a dû être un peu des jeux tronqués, compte tenu du nombre de pays qui se sont abstenus.
Oui, mais ce sont été des résultats. Bon, bien sûr, l'URSS, au tableau des médailles, l'emporte amplement. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que ça a été des jeux qui n'ont pas été réussis. Les Russes ont mis... on a senti le peuple russe ému. Les affiches soviétiques ont été de qualité. Toutes les écoles d'art russes se sont mises à travailler. Il y avait un phénomène assez important. On a toujours en tête, l'art réaliste soviétique. Mais là, il y avait, par exemple, la cérémonie d'ouverture, il y avait 174 tableaux colorés qui rappelaient un peu l'histoire de l'Union soviétique. Ça avait quand même touché, surtout le peuple russe.
Hein. On parle toujours des nageuses d'Allemagne de l'Est, on sait pourquoi. Est-ce qu'à l'époque, les Russes étaient aussi dopés ?
Alors là, le dopage, il intervient après. Si vous voulez, dans les années 80...
Ou on s'en préoccupe
on
après.
On s'en préoccupe, je dirais pas.
Oui, donc
il apparaît, on le verra avec Johnson, le vainqueur du 100 mètres. Un gros poisson dopé, attrapé par la patrouille. Bien sûr, l'Allemagne de l'Est, évidemment, a ses athlètes, surtout en athlétisme, en aviron, qui sont sans doute incontestablement dopés, mais on abordera le sujet que je pense malheureusement que à la fin des années 90, voilà.
Ce qui n'empêchait pas qu'ils étaient dopés, puisque c'est pas parce que on n'effectuait pas de contrôle qu'ils ne l'étaient pas. Et vous disiez tout à l'heure, Gilles, la moisson importante de médailles des Russes, mais certainement bien aidée par le dopage.
Oui, tout à fait. Mais le système du dopage en Russie a trouvé son apogée avec les Jeux d'hiver de Sotchi, ville sur la mer Noire,
cher au dictateur sanguinaire Poutine,
et qui avait construit de lui-même des pistes d'hiver, etc. Et là, vraiment, il y avait un système organisé de dopage dont la Russie a été exclue des championnats du monde, des Jeux olympiques, et dont aujourd'hui elle est aussi exclue quelque part.
Pour d'autres raisons.
Voilà, pour d'autres raisons.
Alors après Moscou.
Après Moscou, on est en 84 à Los Angeles, et là aussi on parle toujours de boycott, d'une quinzaine des pays de bloc communiste, dont l'URSS évidemment. Alors là, la raison invoquée, c'était on rend l'appareil aux États-Unis, mais l'URSS était dans une situation où il y avait l'affaire des dissidents aussi, très important. Dans l'Occident, on était quand même sensible, par exemple, aux époux Sakharov, à la dissidence russe, a émergé quand même énormément en Occident. Et puis les Russes s'inquiétaient de l'installation de missiles américains dans l'Europe de l'Ouest. Donc tout a été fait pour que la Russie n'aille pas à ces Jeux de 84 à Los Angeles. Les États-Unis, bien sûr, remportent un tiers des médailles. On est à Los Angeles. C'est-à-dire que en 80, exit Avery Brundage, l'ancien président du CIO qui avait mal géré l'affaire de 72, de l'attentat et du podium de 68 à Mexico, et donc émerge Juan Antonio Samaranch, un Espagnol, un Catalan, un chef d'entreprise, un ami de Franco, mais oui, qui a été ambassadeur en Russie pour l'Espagne, et qui donc, lui, fait voter la suppression de la référence à l'amateurisme dans la charte olympique. Donc dorénavant, les Jeux sont ouverts aux professionnels. Et donc dorénavant, il faut...
Premier gros écor de nos principes de Coubertin.
Tout à fait, incontestablement. C'est-à-dire que là, maintenant, et l'apogée, c'est 96, à Atlanta, on ira chez la maison mère Coca-Cola. Vraiment, c'est l'émergence des droits télé qui font qu'on renforce le CIO. Le CIO était au départ une association. Et c'est devenu une organisation internationale basée à Lausanne, donc en raison de la fiscalité. Et finalement, les droits télé, le trésor de guerre du CIO, qui représente quand même 208 pays aujourd'hui, n'a fait qu'exploser d'une manière exponentielle. Alors, Los Angeles en 84, c'est le début du marathon féminin. Et surtout, j'ai retenu deux choses. D'abord, Carl Lewis, le coureur américain dont on a un peu parlé, qui est natif du même endroit que Jesse Owens, dans l'Alabama, il est né en 61. Lui, il n'est pas dans une famille pauvre, il est plutôt de la middle class. C'est quelqu'un qui remporte quand même 4 médailles d'or, 100, 200 mètres, 4 fois 100 mètres de longueur, comme Jesse Owens en 1936 à Berlin. Donc, il le fait en 84 à Los Angeles. Lewis a été privé des Jeux de Moscou, il prend sa revanche, ça reste quand même le coureur de référence américain, assez individualiste, même si en 2011, à 50 ans, il se présente pour les démocrates dans le New Jersey républicain, il perd l'élection, mais Carl Lewis, ça reste une référence. Et la deuxième référence que j'ai mis en 84, c'est Nawal El Moutawakil, c'est une Marocaine qui, pour la première fois, c'est une première femme musulmane, championne olympique. Elle gagne facilement le 400 mètres et féminin. Et donc, elle est Marocaine. Elle n'aura pas la même histoire qu'une autre Algérienne, Boulmerka, dont on racontera un peu son itinéraire. Elle a vécu en France, elle a surtout vécu aux États-Unis, elle a fini par être secrétaire d'État au ministère des Affaires sociales, chargée de la jeunesse et des sports en 97 avec le roi Hassan II. Donc c'est l'expression d'une musulmane qui s'entraîne quand même en France et aux États-Unis. Voilà, nous étions en 1984 et après.
Et après, et avant d'y arriver, moi je vous propose de faire une première pause musicale. Cathy Freeman, ça vous parle ?
Oui, ça nous parle, ça nous parlera tout à l'heure, voilà. Au jeu de Sydney.
Mais on va devancer un peu, on va écouter voilà. Old Love qui l'a chanté.
T'es né dans un pays grand comme un continent, écrasé de soleil d'anglais envahissant, qui avait décrété à peine en arrivant que les aborigènes, mais en y regardant, ils gênent pas vraiment. Tu t'es mis à courir comme les autres enfants, mais y avait rien à faire, tu gagnais tout le temps. Et de fil en aiguille, tout en grandissant, t'as vu passer les jours en te chronométrant. Paradoxe évident. Cathy Freeman, Cathy Freeman, un drôle de nom pour libérer les femmes. Cathy Freeman. Moi quand j'étais minot, le troisième millénaire, je le voyais plutôt dans un vaisseau lunaire. Je pensais pas qu'une femme déguisée tout en vert entrerait dans l'histoire en gagnant de travers. Une course légendaire. Cathy Freeman, Cathy Freeman, tu as de l'or sur le cœur et dans l'âme. Cathy Freeman. Elle avait craqué, y avait plus Marie-Jo. T'avais plus qu'à courir dans ta combi fluo. Et t'as passé la ligne dessous les cinq anneaux. Et t'as montré au monde ce qu'il y a de plus beau. Tu portais deux drapeaux. Cathy Freeman, Cathy Freeman, ce sont de peuples réunis qui t'acclament.
Voilà, Old Love qui nous a chanté Cathy Freeman, que l'on va retrouver tout à l'heure avec Gilles Labourroir qui va poursuivre cette histoire des Jeux Olympiques. Alors Gilles, on part où maintenant ?
À Séoul, en Corée du Sud.
Oui, là, en Corée du Nord, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de Jeux Olympiques.
Non.
Même à l'époque.
Non.
Donc nous voilà, on parcourt le monde grâce aux JO. Alors qu'est-ce qui se passe Corée du Sud ? Est-ce qu'on va retrouver ces problèmes géopolitiques qui pourrissent finalement l'ambiance des JO ?
Oui, on les retrouve d'une certaine manière quand même. Déjà, il y a une domination russe incontestable, avec 132 médailles, dont 55 titres. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est émerge le scandale. Le scandale de trop, avec le vainqueur du 100 mètres, le Canadien Ben Johnson. Il bat Carl Lewis, justement, dans la finale du 100 mètres, et il réalise même 9 secondes 79 centièmes, ce qui est le nouveau record du monde. Mais il est finalement, rattrapé par la patrouille et il est contrôlé positif à un stéroïde anabolisant. Et donc, c'est un gros poisson. Hein. Jusqu'à présent, le CIO avait eu 43 contrevenants, si vous voulez. Mais là, c'est vraiment le premier gros poisson. C'est le dopage qui émerge sur la scène sportive.
Et pourquoi est-on allé le chercher à lui ? Et pas les Russes, dont on sait qu'ils étaient dopé jusqu'aux yeux.
Oui, mais là, il y a des contrôles. Il est vainqueur. Et finalement, oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Pourquoi on n'a pas fait des contrôles dans certaines disciplines autres ? Mais l'athlétisme est une le 100 mètres surtout, c'est quand même l'épreuve reine. On sait les coureurs quand même dopés sur 100 mètres. On le sait, l'histoire nous le dit, si vous prenez les plus grands sprinteurs. Carl Lewis disait toujours que Carl Lewis, actuellement, dit toujours que Usain Bolt est dopé, alors qu'il n'a jamais eu d'affaire de dopage. Donc, si vous voulez, c'est parce que c'est une vitrine et que c'est un gros poisson. Il n'a pas eu de chance, Johnson. Bon, il est né à la Jamaïque en 61. C'est l'avant-dernier d'une famille de 10 enfants. Et sa mère s'expatrie en 70 avec ses enfants au Canada. Et le père, lui, n'a pas voulu quitter l'île. Hein, donc, Ben Johnson, c'est un bourreau de travail. Il veut réussir, c'est incontestable.
Mais là, il va trop loin.
Il va trop loin.
Et il perd tout.
Il perd tout. Il perd tout. Personnage à l'opposé de Carl Lewis, taiseux, vraiment travailleur. Mais bon, il a vraiment pas eu de chance. Même on peut dire que dans sa rédemption, il a pas fait les bons choix. Il a été l'entraîneur en moment de Diego Maradona quand il était dans une mauvaise passe. Et il a surtout été engagé par le dirigeant libyen Kadhafi comme préparateur physique de son fils. Le fils de Kadhafi, c'était un footballeur dans un club italien de Pérouse et qui jouait pas en Serie A. Hein. Mmh. Donc, c'est pour dire que Ben Johnson...
grandeur et décadence.
Grandeur et décadence. Mais en 88, je suis toujours influencé aussi par Florence Griffith Joyner, qui, elle, aussi grandeur et décadence. Elle gagne le 100 mètres, le 200 mètres, elle bat les records du monde. C'est la septième d'une famille pauvre de 11 enfants dans une banlieue Watts, une banlieue difficile de la mégapole californienne. Elle débute l'athlétisme jeune, mais elle a été aussi... on sentait qu'elle était quand même dopée, puisque d'ailleurs elle décède en plein sommeil en 89 d'une rupture d'anévrisme. Donc il y a toujours aujourd'hui un mystère Griffith Joyner. C'est drôle parce que c'était le, on avait les coureuses est-allemandes, et je peux en citer quelques-unes, Renate Stetscher, la première femme à courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, ou Marlies Göhr. On sentait qu'il y avait des soupçons de dopage qui planaient sur les performances de ces athlètes. Mais après, il y a quand même eu aussi des soupçons de dopage sur ces nouvelles filles américaines. On les voit même maintenant, avec des boudis moulants, des ongles faits, fuselés, des anneaux aux oreilles, des maquillages soignés, des tenues sportives extravagantes. Enfin, le temps des top modèles quelque part sur la piste, mais qui cachent aussi quand même beaucoup de faiblesses et de fragilités. On le verra en 2000 avec Marion Jones, qui est un peu dans la même situation, grandeur et décadence, comme vous dites. Là, voilà, nous étions, Jacques, en 88 sur Séoul, et je pense, comme vous dites, il faut aller assez vite. Et on arrive à 1992, oui. Barcelone. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Juan Antonio Samaranch, qui est ancien ambassadeur espagnol à Moscou. On est en 92, on est quand même 17 ans après la mort de Franco, et on sent... On sent qu'il faut changer la vie, rénover à Barcelone le fond de mer, faire du développement urbain.
Ah, pour
le
Barcelone, sport, Barcelone. Ça a été une chance inouïe. Hein. On a fait des équipements absolument magnifiques qui ont véritablement dynamisé la ville.
Tout à fait.
Et son économie. Et
tout à fait.
Son tourisme aussi.
Et là, Barcelone, j'ai retenu le retour de l'Afrique du Sud. Il y a même une finale du 10 000 mètres. Entre Elena Meyer, une Sud-Africaine blanche, donc, et Dehartu Tulu, une Éthiopienne noire. Et c'est Dehartu Tulu qui l'emporte, mais à la fin, on voit les deux filles s'embrasser. Et sous les yeux de qui ? Là, sous les yeux de Nelson Mandela, qui était donc dans les tribunes de Barcelone. Il était sorti de prison un an avant, il avait passé 27 ans, et dans un an après, il accédera au pouvoir en Afrique du Sud. Donc, Antonio Saramanche a tout fait pour que l'Afrique du Sud revienne dans le concert international.
C'est une bonne place, ça, le président du CIO, donc.
CIO, oui. Mais il est, oui, élu par ses pairs.
Par ses pairs,
voilà. Alors, plutôt des aristocrates. Attention, on est toujours dans l'esprit de Coubertin. Les gens qui sont là sont des aristocrates. Ça va changer, on le verra plus tard. Il y a le prince de Monaco, il y a des aristocraties belges.
Ah, c'est bien fréquenté, quoi.
Voilà, c'est ça le CIO.
Mais c'est pas très démocratique.
Non.
Chaque membre du CIO, juste une parenthèse là-dessus, oui. Mais sur son fonctionnement, chaque membre du CIO est désigné par un pays.
Oui.
Et la désignation est...
La désignation est faite par le comité olympique du pays.
Du pays.
Oui.
Donc les pouvoirs publics, globalement, malgré certainement...
N'interviennent pas.
Quelques pressions peut-être indirectes.
Oui,
mais
bien sûr.
Ils n'interviennent pas officiellement.
Non. Donc c'est un travail de lobbying.
Voilà, c'est fait, comme à l'Académie française, il faut faire son tour, se faire apprécier,
voilà.
Faire sa clientèle un peu à la romaine et se faire élire.
Tout à fait.
Et une fois qu'on y est, on y est inamovible ?
Oui, quasiment.
C'est beau.
En effet.
C'est beau.
Oui, c'est beau, voilà. C'est beau, comme vous dites.
Gilles, il faut absolument que vous présentiez.
À Barcelone, il y a 172 comités olympiques. Il est fort, ça m'arrange, hein, parce qu'il est allé... Je crois qu'il a visité tous les pays du monde. On peut dire que ça a été un président qui, on verra, il tombe quand même sur des affaires de corruption. Et il finira en 2001. Mais la période 80-2001, on le sent d'ailleurs que c'est le développement de tous les pays. Tous les pays émergent sur la scène internationale. Il n'y a plus de boycott. Les Américains amènent une Dream Team en basket qui remporte le tournoi. Ce sont des professionnels. On a, par exemple, je voulais raconter un petit peu l'histoire de... Pourtant, en 92, il y a eu l'effet Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville, qui ont été aussi une réussite. Ils se sont déroulés en France, en Savoie. Alors, 92, c'est aussi la guerre en Yougoslavie qui démarre. 91, 92, c'est la guerre en Yougoslavie. Et puis, il y a quand même quelque chose qui me semble important de dire en 92, c'est la victoire de Boulmerka, qui est une Algérienne. Elle amène pour la première fois une médaille d'or au sport algérien. Elle devient un symbole. Hein. Elle est la cible des extrémistes. Parce qu'il faut imaginer que l'Algérie, dans les années 90, vit une période noire. Il y a eu, en 88, les émeutes de la faim. En juin 90, il y a des élections et c'est le Front islamiste du Salut donc qui l'emporte. Mais au dernier moment, l'armée intervient. Elle interrompt le processus électoral au début de l'année 92. Et ils sont allés chercher Mohamed Boudiaf. Il prend la tête du Haut Comité d'État après 28 ans d'exil. C'est un des chefs historiques du FLN. Il revient, mais il est assassiné 6 mois après, le 29 juin. Et là, Boulmerka, 2 mois après... lui offrira son titre olympique. Donc c'est une histoire qui est intéressante. Vous voyez, l'Algérie connaîtra quand même des vagues de violence durant cette période de terrorisme. En 98, la mère de Boulmerka décède et elle a occupé un temps un poste au sein de la commission des athlètes, au sein du comité international olympique. Vous voyez, elle n'est pas restée comme El Moutawakil, la marocaine, dans un contexte marocain. Elle est restée dans un contexte international. L'Algérie s'était vraiment fermée dans les années 90. Hein. Il faut se souvenir de l'assassinat des moines français de Tibérine en mars 96, qui était le point culminant aussi de cette opposition entre l'État et les islamistes. Donc, voilà, nous finissons en 92 par quelque chose qui va que l'on sentait en 92, comme vous dites un peu les jeux qui se professionnalisent, l'argent qui coule à flot. Eh bien, le modèle, c'est 96 Atlanta, 1996 Atlanta. On installe les Jeux Olympiques à Atlanta, qui est le siège de Coca-Cola. Alors certains diront, c'est aussi le siège des droits civiques américains, puisque c'est le lieu de naissance de Martin Luther King.
Coca-Cola qui est toujours là, Coca-Cola aujourd'hui qui est pointé du doigt, puisqu'on le sait, c'est quand même le plus grand pollueur en termes de plastique de la planète. On peut s'étonner qu'à l'époque où on aille toujours chercher Coca-Cola en 2024 à Paris comme sponsor.
Coca-Cola... il faut raconter cette histoire. Coca-Cola, en 1928, Déjà, ils étaient au jeu d'Amsterdam avec leur potion magique. Mmh. Vous voyez, ils ont tout le temps accompagné le CIO et les Jeux Olympiques. Et mais bon, d'une certaine manière, 96, bon, nous, Français, on retiendra bien sûr Marie-Jo Pérec, j'y reviendrai 10 secondes, mais c'est surtout, bon, il y a eu aussi quand même un attentat dans la nuit du 27 juillet 96, revendiqué par un suprémaciste blanc, qui a fait quand même 2 morts. C'est incontestablement les jeux de l'argent, avec les recettes issues des droits TV, et des diffusions, de sponsoring. Donc, Coca-Cola n'est qu'un sponsor parmi d'autres. Incontestablement. Je veux dire Philips, enfin, on peut tous les citer. Vraiment, 96, c'est une montée exponentielle de l'argent, du trésor de guerre du CIO.
C'est la mise en spectacle des jeux.
Bien sûr. Hein,
on y est là.
Et aussi, pour cette époque-là, on sait que 5 à 7% des votes ont été achetés. Donc ça m'arrange, il est pour quelque chose et il passera devant la justice américaine. Ceci étant, c'était les Jeux du Centenaire, ils auraient pu se dérouler à Athènes, ils se déroulent donc aux États-Unis, dans la maison mère, comme on dit, de Coca-Cola. On va dire du sport au commerce, ou du commerce au sport. Voilà.
Oui, on n'a pas chassé les marchands du temple, voilà. ils y sont voilà. toujours.
Autrement, on retiendra quand même. En 1996, la double médaille d'or de Marie-Jo Pérec, la Guadeloupéenne.
Ouais, on peut faire cocorico, effectivement.
Oui, en effet, là, elle avait, en 1992, gagné sur le 400 mètres. Elle renouvelle son exploit. Donc, en 1996, à Atlanta, elle gagne aussi le 200 mètres. Elle le bat quelqu'un qui deviendra un symbole pour les Jeux de 2000 à Sydney, l'Australienne Cathy Freeman. On l'appelle
que
donc.
Que nous avons entendu tout à l'heure chanter Parole de la foule.
Voilà, tout à fait. Mais Cathy Freeman a une histoire très particulière, on va la raconter. Bon, Marie-Jo Pérec a aussi une histoire vraiment très particulière parce que de petit enfant timide, élevé par sa grand-mère en Guadeloupe, ça a été quelqu'un qui a eu une chance énorme. Elle n'aurait dû jamais aller dans l'athlétisme, elle a été repérée par des entraîneurs en Guadeloupe et en France. Et puis finalement, elle est arrivée à cette performance extraordinaire. On l'appelait la gazelle noire. Mais en 2000, quand on sera à Sydney, j'en parle déjà, elle surprend le monde d'athlétisme. Elle s'entraînait dans un groupe américain, John Smith. Elle part s'entraîner avant les Jeux en Allemagne de l'Est, à Rostock, dans l'ex-RDA. Donc, chez Marita Kaur, une ancienne, l'actuelle recordman du monde du 400 mètres, on a été surpris par. Et puis, elle ne participe pas aux Jeux de 2000. Elle est prise sans doute, comme on dit, d'angoisse, dévorée par ses angoisses. Elle s'enfuit d'Australie elle quitte. On la voit à l'aéroport rejoindre son compagnon. Enfin, j'ai toujours une sympathie pour les gens qui ont des difficultés, vous le savez bien, Jacques.
Mais, ils ont tous des difficultés. Quand on vous écoute, c'est tous des cas particuliers.
C'est toujours des cas particuliers dans des contextes très particuliers. Souvent, c'est l'histoire des individus. J'ai toujours pensé que Descartes avait raison par rapport à Spinoza, que finalement le déterminisme n'était pas tout, et que bien que mes histoires racontent beaucoup de déterminisme, mais il y a aussi quand même des destins de vie, des rencontres, des choses qui font que finalement c'est la beauté, comme ça peut exister aussi en politique, la beauté des parcours, la rencontre avec un pays, des contextes de pays, voilà.
Oui, en politique, il y a un peu moins de beauté, surtout par les temps qui courent.
Ah, peut-être.
Alors, semble-t-il.
Alors, Jacques, on va peut-être aller sur Sydney.
Eh bien, Sydney, oui. Là, nous sommes en
Australie.
Oui, mais à quelle époque ?
2000.
Voilà, on arrive dans les...
En 2000. Et justement, tout à l'heure, vous parliez aussi de Cathy Freeman, qui est le symbole de ces Jeux Olympiques de Sydney. Australienne d'origine aborigène... elle gagne le 400 mètres. Elle est née à Mackay, sur la côte est de l'Australie, dans le Queensland. On disait le monde des sables brûlants. Et sa jeunesse n'a pas été facile, avec un père distant, violent, alcoolique, etc. Toujours, comme vous dites, des histoires très particulières. Ceci étant, la première chose qu'elle fait, c'est rendre hommage aux aborigènes décimés, qui ont eu une histoire extrêmement particulière, mais voilà. Elle rappelle aussi Cuthbert, on en avait parlé, une Australienne qui avait émergé aussi aux Jeux de Rome en 1960. L'Australie émerge sur la scène internationale. Il n'y a pas que Cathy Freeman, il y a beaucoup de nageurs. Hein. Il faut savoir qu'en Jan Thorpe, à l'époque, 5 médailles en natation. Et la France a réussi quand même une bonne performance. Elle est 6e avec 38 médailles. Avec des médailles surprenantes, médaille d'argent en basketball, Tony Estanguet qui remporte en canoë-kayak sa première des trois médailles d'or, Tony Estanguet, l'actuel président du comité d'organisation de Paris 2024. Et puis, on citait tout à l'heure Jackie Joyner, et là, on va citer Marion Jones, la sprinteuse noire américaine, enfin d'origine belizienne. Et là, vraiment, sa vie sportive, comme sa vie personnelle, est liée à l'implication dans l'affaire Balco du nom d'un laboratoire qui a organisé une filière de dopage pour les sprinteurs américains. Et elle finira, elle, en prison en 2008. Voilà. Voilà un petit peu le contexte et puis ce qui s'est passé en 2000 où on a quand même une très belle finale du 10 000 mètres entre l'affrontement de deux pays. Que l'on voit aussi aujourd'hui. Alors là, il y a une permanence, hein. Il y a une concordance des temps entre sur 10 000 mètres entre le Kenyan Tergat et l'Éthiopien Gebreselassie. C'est l'opposition de ces deux pays de l'Afrique de l'Est qui raflent toutes les médailles sur le 5 000, le 10 000, enfin 3 000 mètres steep. C'est l'émergence des pays de l'Afrique de l'Est qui apparaît fortement en 2000.
Et là, Gilles, sans dopage, j'imagine.
Alors là, sans dopage, vous dites.
Non, je ne sais pas. Là, je pose la question aux spécialistes.
Ben, aujourd'hui, on sait très bien que le Kenya est un pays où il y a des endroits comme la vallée du Rift, qui se prolonge d'ailleurs dans l'Éthiopie, où viennent s'entraîner tous les meilleurs athlètes du monde. Donc il y a des marchands du temple, il y a tout ce que vous voulez là-bas, il y a des agents, il y a rencontre des agents d'athlètes, de pharmacies qui se montent, de coureurs qui s'entraînent.
Oui, donc,
et donc finalement, on peut penser, et on sait très bien, on le sait aujourd'hui, qu'une grande partie des Kenyans sont dopés. Parce qu'il y a des contrôles qui se font maintenant et qui se font sur place là-bas. Et on voit qu'il y a des contrôles positifs énormes. Il y a de grands athlètes qui ont gagné des titres olympiques et qui sont maintenant en déshérence depuis 4-5 ans. Ils ne peuvent plus s'entraîner. Ils ont gagné certes des primes internationales sur les marathons internationaux. Certains pour acheter dans l'immobilier, d'autres peut-être aussi modestement. Pour acheter un lopin de terre et du bétail. Mais on sait très bien qu'il y a du dopage dans ces pays-là, comme il y a sans doute du dopage ailleurs, dans d'autres pays. Voilà. Là, nous étions en 2000 et nous allons passer à Athènes 2004.
Oui. Donc on revient un peu à l'origine des Jeux.
On revient à l'origine des Jeux. On revient à l'origine. La Grèce voulait absolument les Jeux, puisqu'elle ne les a pas eus en 96. Mais bon, ça a été quand même pour la Grèce une banqueroute, hein, les Jeux. Ça a été une crise énorme au niveau financier. Au même titre que les Jeux laissent une énorme ardoise quand même financière. On n'a pas parlé de 76, Montréal, où le budget final a été dépassé de 30 fois. Donc, c'est pour dire que je ne sais pas ce qu'il en sera de Paris 2024, mais on sent que l'aspect financier...
Espérons que non, parce qu'on a déjà 3100 et quelques milliards de dettes. Donc...
Oui, on parle en tout des Jeux qui valent 8 milliards, mais dont 1 à 2 milliards d'argent public. Mais on pense quand même que ce seront des Jeux qui seront... quand même moins coûteux que ceux de Londres ou ceux de Athènes en 2004. La Grèce, bien sûr, a un athlète qui remportera des médailles d'or. Il s'appelle Pyrrhos Dimas et il est d'origine d'une minorité albanaise. Et il émerge sur la scène grecque. Mais pareil pour des Bulgares qui quittent la Bulgarie pour aller en Turquie. Là, on est dans le monde de l'haltérophilie, les hommes forts. Et en 2004, on commence à voir apparaître quelqu'un qui va devenir le plus médaillé des Jeux. C'est l'Américain Michael Phelps. C'est un nageur. Il gagnera en tout à Pékin, donc en 2008, on va y venir assez rapidement, 8 médailles d'or. Il battra donc, si vous avez suivi la leçon, Jacques, le tout record de Mark Spitz, ouais. qui en 72 avait remporté 7 médailles d'or. Lui, il est de Baltimore. Bon, c'est un... c'est quelqu'un qui vient aussi d'un middle class. Hein. Sa mère est directrice d'école, même si ses parents sont divorcés. Il travaille, son père travaille dans la police de l'État du Maryland. C'est quelqu'un qui est entraîné par un grand entraîneur, Bowman, qui est l'actuel entraîneur de Léon Marchand, le Toulousain du TOEC, qui vise quand même 3 médailles d'or à Paris dans un mois.
Là, il en restera 5 à avoir s'il veut égaler le record.
Oui, mais c'est impossible puisqu'il sera pas, il sera certes sur des relais. Au maximum, il peut faire 5 médailles en tout. 5-6 médailles, mais il ne pourra pas battre le record de Phelps. Puis l'avantage de Phelps, c'est qu'il est dans la meilleure équipe de relais, les États-Unis, qui domine la natation mondiale.
Voilà. Ça aide,
voilà. Donc, il était, Phelps, traité pour un trouble déficitaire de l'attention. C'était un hyperactif. Donc, il commence à pratiquer la natation à 7 ans et poursuivre ses sœurs. Il avait des sœurs qui faisaient la natation. Et finalement, il est allé là pour canaliser son énergie. Et il est précoce, il est fort. C'est le nageur qui a des bras très longs. Il a une envergure de 2,01 m, disproportionnée par rapport à sa taille. Il fait 1,93 m. Et ses bras font office de levier, très efficace pour tirer l'eau. Il a de grands pieds, taille 47. Mais il joue un rôle de palme. Et grâce à des chevilles très mobiles qu'il peut fléchir de presque 15 degrés au-dessus de la normale, il peut fouetter l'eau. Voilà, il est différent de nous.
Il est différent de nous, il a des qualités physiques
incontestables
et parfaitement adaptées à son sport.
Mais la natation française, elle, voit émerger en 2004 Laure Manoudou, hein, champion olympique du 400 mètres libre en natation. La natation française sera très forte en 2008 à Pékin, la natation française. Hein. Donc avec Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres nage libre. Donc on est après j'accélère un peu comme vous dites à Sue Agambade pour qu'on puisse donner quand même quelques conclusions, quelques idées un peu générales parce que c'est dans un mois les Jeux et c'est, je sais pas si c'est devenu l'actualité majeure actuellement en France mais
je crois ça aurait pu l'être mais il y en a un à l'Élysée qui a trouvé certainement très,
mais il sera quand même
très intelligent de bousculer un peu le calendrier. D'accord. On va dire gentiment.
Alors là, on est en 2008 à Pékin. Donc, Pékin avait été choisi en 2001. Et en 2008, on est quand même 19 ans après Tiananmen. On sent quand même que si on donne les Jeux à la Chine en 2008, on voit quand même que c'est une puissance émergente sur la scène internationale au niveau géopolitique. Mais on voit aussi quand même qu'il y a des manifestants sion très importantes contre le Tibet occupé en France, en Angleterre.
Oui, elles ne sont pas en Chine, les manifestations. Voilà.
Mais la Chine fait tout pour quand même que ça se présente bien. Malgré les relations avec Taïwan qui sont passées, à l'époque, elles sont encore bonnes. La Chine construit des infrastructures énormes. Par exemple, le nid d'oiseau, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça ressemble vraiment à un nid d'oiseau, le stade de Pékin. S'il y a eu quand même des problèmes sur le passage de la torche, la torche, elle est quand même passée sur l'Everest. Hein. La Chine revendique quasiment l'Everest à 8848 mètres. Donc, ceci étant, elle termine pour la première fois en tête des médailles d'or. Elle en obtient 46 sur 100 médailles devant les États-Unis, 38 médailles d'or. La star chinoise s'appelle Lu Qiang sur 110 mètres haies. Il se blesse, il est éliminé en série. C'est tout un peuple qui il abandonne donc quelque part devant les siens. Ça a été un drame un petit peu pour les Chinois. Et là, en 2008, émerge le show Bolt, le coureur de 100 mètres, jamaïcain, 3 médailles d'or. Il obtiendra 3 médailles d'or, c'est-à-dire 100 mètres, 200 mètres et relais 4 fois 100 mètres, en 2008, en 2012 et en 2016. Donc, on retiendra Bolt, l'arc et la flèche.
C'est pas un hasard, on peut gagner une fois, avoir de la chance, oui. Une course, deux courses, trois courses, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on est au top et au meilleur de soi-même, mais quelqu'un qui gagne sur trois Olympiades successives, avec 4 ans d'intervalle entre oui. chacune, c'est quand même pas rien, non. D'autant plus que dopage, il devait pas trop y en avoir, il était sur le devant de la scène,
oui.
donc Usain Bolt est un grand champion.
Oui, incontestablement. Même si une épée de Damoclès plane sur l'ensemble du sprint mondial à l'époque, liée finalement au dopage, il est jamaïcain. Vous voyez, la Jamaïque, hein, c'est grand comme un département français. Hein, c'est 3 millions d'habitants et ça produit des coureurs exceptionnels. Et moi, je dis toujours, me référant à Asafa Powell et à Stephen Francis, qui est l'entraîneur de Bolt, ils disent toujours, parce qu'on s'interroge toujours, pourquoi les Jamaïcains ou pourquoi les pays de l'Afrique de l'Est sont meilleurs que nous. Alors, il y a une thèse qui dit que les coureurs jamaïcains ont des fibres dites blanches, idéales pour des efforts courts et intenses pour le sprint. Alors que les coureurs du Kenya, par exemple, auraient des fibres rouges plus légères et plus endurantes. Les 3 millions d'habitants que compose la Jamaïque, il faut savoir que ce sont dans la quasi-totalité des descendants d'esclaves originaires de l'Afrique de l'Ouest. Et ces descendants d'esclaves ont adopté, conservé des aptitudes physiques hors normes, leur ayant permis de supporter de durs labeurs. Parce qu'à l'époque, dans la traite des Noirs, la Jamaïque ne constituait qu'une première étape avant les États-Unis. Et il se dit que les plus rebelles des esclaves n'étaient pas envoyés sur le continent américain, de peur qu'ils sèment évidemment le trouble dans les plantations aux États-Unis. Donc, ils étaient gardés ici, en Jamaïque. Et c'est une thèse que rappelle Stephen Francis ou même certains coureurs jamaïcains, quand même. Ces anciens esclaves leur ont légué cette force de caractère. Donc, il y a quelque chose... Parce que finalement, le sprint masculin est dominé par la Jamaïque, mais le sprint féminin est aussi dominé par la Jamaïque. Oui. Donc, incontestablement, il y a quelque chose... l'abolition de l'esclavage intervient en 1833. Après, ça devient une colonie britannique qui ne devient indépendante qu'en 1962. Hein. Et ce sont des icônes. Bolt est une icône, comme Bob Marley en Jamaïque. Voilà.
On fait une deuxième pause un peu rapide, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. On disait tout à l'heure, Gilles, que les Jeux Olympiques, c'était la mise en spectacle. Hein.
Oui.
Ça y est, on y est. Alors, il y a la musique, il y a le chant au service des JO, il y a les costumes, il y a les effets spéciaux, la mise en scène. J'évoque bien évidemment la cérémonie d'ouverture et de clôture, hein, c'est là que tout ça se... Et on a beaucoup évoqué aussi, on s'est demandé qui c'est qui allait chanter à Paris pour cette ouverture. Et à Barcelone, les Jeux que vous évoquiez tout à l'heure, Freddie Mercury et Montserrat Caballé se sont mis à tous les deux et je vous propose de les écouter assez brièvement.
This perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Ay, verte estás aquí.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation. My guide and inspiration. Now my dream is slowly coming. Gentle breeze,
ooh, ooh, ooh.
Voilà, c'était Freddie Mercury, Montserrat Caballé, l'ouverture des Jeux de Barcelone dont Gilles Labourdoir nous a entretenu tout à l'heure. Alors toujours pareil, hein, ce sont des grands spectacles et chaque pays a à cœur de montrer qu'il est encore meilleur que ses petits camarades. Il y a une espèce d'inflation dans le spectacle. Alors revenons, Gilles, à nos Jeux et au sport surtout.
Voilà, nous allons terminer par les trois derniers Jeux Olympiques, 2012 à Londres, 2016 à Rio de Janeiro et 2020, donc avec le Covid, les Jeux se sont déroulés en 2021 à Tokyo. Ça aurait pu être un manque à gagner énorme pour le CIO, l'absence de Jeux. Ça, c'est une hypothèse qui n'a pas été encore envisagée. Voilà. Donc, en 2012, à Londres, la France récolte une belle médaille d'or avec Renaud Lavillenie, champion olympique du saut à la perche. Il sera deuxième en 2016. Donc là, on est quand même à Londres, 60 ans après les Jeux de 48, et on est à 11, l'ardoise financière, les Jeux, s'élève à 11 milliards d'euros. Donc on est dans des zones quand même importantes. L'organisateur de ces Jeux, c'est Sébastien Coe, celui dont je vous avais parlé tout à l'heure, le député conservateur qui est finalement devenu président du comité d'organisation et qui maintenant dirige l'athlétisme mondial. Eh bien, ce sont des Jeux quand même réussis. Les Britanniques, évidemment, remportent beaucoup de médailles. Le nageur américain Michael Phelps, dont je parlais tout à l'heure, devient le sportif le plus médaillé des Jeux. C'est la troisième médaille d'or pour Tony Estanguet en canoë et kayak. Et c'est l'actuel maître d'œuvre de l'organisation des Jeux de Paris 2024. Et c'est aussi un nouveau triplé pour Bolt. Après, nous passons en 2016 à Rio de Janeiro. Donc, on va vers des pays en devenir. Le CIO veut expérimenter, surprenant, parce qu'au Brésil, il aurait pu expérimenter Sao Paulo, la capitale économique. Et il choisit Rio de Janeiro, la capitale plutôt politique.
Et il y a le pain de sucre, on est au bord de la mer.
Tout à fait. Normalement, c'était le CIO tenait à développer, c'est la première fois qu'il allait en Amérique du Sud. Modestie, écologie, décroissance, c'était un peu les thèmes de l'époque. On était aussi dans des sports télégéniques qui apparaissent, comme le skateboard, enfin, de nouveaux sports apparaissent. La boxe française réussit vraiment de belles performances avec de belles médailles d'or. Teddy Riner, c'est son deuxième titre de champion olympique en lourd. Kevin Mayer en athlétisme est deuxième du décathlon. Les Français réussissent de bonnes performances. Hein. Troisième triplé donc de Bolt après 2008 et 2012. Et émerge aussi l'équipe olympique des athlètes réfugiés. Ça, c'est une nouveauté que le CIO a fait émerger. Et j'ai oublié de dire que pour la première fois en 2012, la Palestine a pu défiler. Donc l'équipe olympique des athlètes réfugiés, c'est un élément important qui apparaît. Voilà. Et puis finalement, nous terminerons par Tokyo 2020. Les Jeux se sont déroulés en 2021. Pour la France, c'est quand même une belle moisson avec des sports collectifs à l'honneur. Or, pour médaille d'or pour le handball masculin-féminin, pour le volleyball masculin, argent pour le basket masculin. Il y a certes une assistance restreinte, mais les droits télévisés font que les Jeux restent quand même dans une course à la démesure. Ils sont suivis, on va quand même toujours plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, les Jeux olympiques de 2024 que nous allons suivre seront sans doute des Jeux qu'on va peut-être analyser un petit peu maintenant. Reflet de nos valeurs et du monde actuel. Voilà, Jacques, je voulais vraiment vous faire part de tout ça. Nous arrivons en fin du voyage, un peu.
Oui, enfin, la fin du voyage de celui-ci, mais peut-être que en septembre ou en octobre, à la reprise de nos programmes, on se retrouvera, Gilles, pour faire un point sur ces
avec plaisir.
JO, pour voir un peu ce qui s'est passé, pour mettre le point d'orgue à ces trois émissions. Cela étant, on a quand même l'impression qu'il y a une dérive de ces Jeux par rapport aux valeurs premières. Il y a y a toujours ce romantisme où on se dit, eh bien voilà, ce sont des athlètes qui vont s'opposer entre eux, une espèce de pureté. Mais on sait aujourd'hui que cette fascination qui pourrait paraître intacte est quand même passablement altéré par le fric, hein, disons-le. Aujourd'hui, il y a deux enjeux qui peuvent le pourrir, c'est les enjeux financiers et puis, alors ça c'est pas nouveau, les enjeux géopolitiques, puisque les États s'opposent entre eux sur la piste.
Oui. Alors, les enjeux financiers, bon, je pense quand même que la voilure a été réduite. On parle toujours... Tout de même, il faut imaginer, Jacques, que le sport, c'est un soft power, si vous voulez. C'est
oui,
pourquoi le Qatar,
fait.
Aujourd'hui, fait du football, fait de la Formule 1. On organise des méga-événements. C'est à la fois la marque de la puissance d'un pays à tous les niveaux.
Ça, donc, c'est les jeunes États, souvent,
oui,
qui ont
bien
recours
sûr,
hein,
bien sûr.
À l'imaginaire qui est produit par le sport, pour
oui,
forger
donc,
un peu une identité
oui,
nationale.
Oui, pour ça, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des nombres de médailles. On comptabilise toujours, à la fin de la course, le nombre de médailles. Si vous voulez, ce que vous allez retenir des Jeux Olympiques, indépendamment des épreuves, c'est la France va-t-elle terminer troisième nation, cinquième nation mondiale, comme elle l'était il y a cinq ans. D'une manière générale, la France devrait se situer au moins avec... bon, il y a des estimations qui sont faites, mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui. Mais je pense toujours qu'aujourd'hui, quand même, on est conscient avec tous les enjeux au niveau des représentations des sociétés, de l'aspect mondial, que le nombre de médailles ne suffira pas. Le message que la France doit faire passer au monde en organisant un événement planétaire, c'est quand même aborder certains éléments, bon, qui est quand même une réduction de la voilure financière, qui est que ça soit quand même une vitrine du savoir-faire français, de ce que nous sommes, comment notre conception du sport. Vous voyez,
c'est un foyer d'expression identitaire.
Oui,
hein.
Tout à fait.
On se fait voir, notamment pour les petits pays qui vont défiler à deux ou trois le jour de la cérémonie d'ouverture en agitant leur petit drapeau. Alors drapeau, il y en a. Il y a des hymnes, il y a le classement par pays, vous le disiez,
oui.
Il y a des défilés, c'est quand même un peu spécial, non, comme manifestation.
Oui.
Alors, il y a quelque chose qui est encore plus spécial, c'est, et on y assiste, vous n'en avez pas parlé, mais c'est la naturalisation à des fins sportives, puisqu'il y a des pays qui récupèrent des athlètes ou des athlètes qui vont, je ne sais pas si on peut dire se vendre, mais bon, c'est quand même assez particulier aujourd'hui. On change de nationalité pour pouvoir courir sous certaines couleurs.
Oui, mais ça, c'est depuis... pour les footballeurs, c'est depuis l'arrêt Bosman, qui permet de... Le footballeur est une force de travail qui va d'un pays à l'autre et donc qui se vend à des pays... Il en est de même pour certains athlètes, pas tous, mais bon, c'est certain que pour émerger sur la scène internationale, le Qatar, pour ne pas le nommer, l'Arabie Saoudite actuellement, vont chercher des coureurs de l'Afrique de l'Est pour remporter des médailles, en effet.
Ça veut dire que les athlètes, c'est des espèces de mini-ambassadeurs qui aujourd'hui ont une fonction de représentation de leur pays, c'est ça ?
Oui. Voilà.
Si on y joint le fait que les médias emploient souvent un vocabulaire guerrier pour décrire ce qui passe dans les stades, ça sent pas très bon tout ça. Si ?
Moi, je suis optimiste, d'une manière générale. J'espère que déjà...
On rêve toujours de la possibilité de ce monde illusoire, mais désirable, qui appartiendrait à tous, un peu ce que Coubertin voulait faire au départ. On en rêve, c'est du romantisme, mais...
Oui,
mais
c'est du romantisme, mais
on envie
si Coubertin avait raison, pourquoi
oui,
pas
mais
si Coubertin avait raison, parce que...
On s'en serait aperçu depuis le temps.
On a bien abordé tous les sujets, le dopage, la corruption, les boycotts, toutes les crises, et les jeux sont là. Quand même, il y a quand même quelque chose qui font que les Français vont sans doute, peut-être, à un moment, les regarder. On va être pris d'une forme de soutien quand même à la nation. On va s'identifier quand même à ces sportifs.
C'est un divertissement dont on a peut-être besoin à certaines époques, ça l'a particulièrement.
Oui.
C'est un peu le divertissement pascalien, peut-être.
Oui, voilà. Oui, c'est incontestable. Enfin... je pense quand même que il me semble qu'en France, il va émerger. Je reste foncièrement optimiste parce que je sens que malgré les aspects politiques, tout ce que la France rencontre actuellement, eh bien, les Jeux sont un phénomène d'attraction. Si vous voulez. C'est comme on va voir un grand film, c'est comme c'est des choses dont on se souvient. Moi, enfant, je me souviens encore. Enfin, y a pas. Quand j'avais 20 ans, je me souviens de la finale, de la demi-finale perdue par la France contre l'Allemagne à Séville. Enfant, je me souviens de Bambuc. Donc, c'est des points de repère que l'on a. Et le sport, il vous amène quand même. Ces formes d'émotions. Incontestablement, je reste un grand enfant.
On a beaucoup parlé des Grecs, on n'a pas parlé des Romains, mais on aurait pu en parler. C'est du pain et des jeux, c'était la devise des Romains. Oui. Panem en circenses, non?
Oui.
C'est un peu ça quand même, tout ça. Et oui. Puis il y a deux choses dont on n'a pas parlé, mais dont un jour il faudra parler. C'est le coût environnemental de cette opération. Notre planète n'est pas dans un état très brillant sur le plan environnemental, et on sait que c'est un grand euphémisme. Là, il va y avoir certainement un coût important.
Oui, c'est vrai, c'est incontestable.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de s'offrir ça en termes environnementaux, et est-ce qu'on a les moyens de s'offrir ces jeux en termes financiers?
C'est difficile à répondre, Jacques, à cette question. C'est extrêmement difficile.
Il n'y a même pas de réponse, d'ailleurs, voilà. Parce que la réponse est non. Si on ne veut pas être dans le déni et si on veut être dans le réalisme et la responsabilité, la réponse est non aux deux questions. Mais nous allons quand même avoir nos Jeux dans une période politique et sociale certainement très troublée chez nous. C'est pas ce que nous voulions, mais on nous l'a imposé.
Les Jeux ont lieu du 12 juillet à partir du 26 juillet, vendredi 26 juillet, cérémonie d'ouverture, et jusqu'au 12 août pour les sports olympiques. Et pour le paralympisme, c'est 15 jours après, en septembre. Donc, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que le gouvernement sera en marche.
Pas s'il sera en marche. Vous faites des jeux de mots, Gilles. Il sera certainement opérationnel, peut-être. En marche, nous verrons, à moins que vous ayez une boule de cristal.
Non, je n'ai pas de boule de cristal. Sur ces sujets-là, je n'en ai pas.
Bon, Gilles Labourouard, merci, parce que vous avez une science encyclopédique et vous nous avez régalé pendant ces 3 émissions. Et j'ai annoncé le prochain rendez-vous sera donc la 4e émission. On se retrouvera tous les deux à la rentrée pour faire un point sur ces jeux et vous nous expliquerez un peu avec votre science du sport, de son histoire et de ses côtés sociaux. Vous nous expliquerez quelle est votre vision de ces jeux. Encore une fois, merci Gilles Labourouard. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne et, vous l'avez compris, de Gilles Labourouard qui a fait un travail absolument considérable. Merci à Léo Touroul qui était aux manettes et vous, bien sûr, vous pourrez retrouver cette émission dans la bibliothèque de podcast d'Esprit Occitanie avec tous ses petits camarades podcast. À bientôt, vous l'avez compris, pour le 4e épisode. Merci de votre fidélité à toutes et à tous.